Vous écoutez Radio de Quartier sur PFM 999, Radio de Quartier au quartier des Quatras à Chicourt. Toute cette semaine, on vous propose des reportages, des interviews et différents sons réalisés sur place, plus ou moins avec les habitants. C'est diffusé à notre antenne à 7h30, 12h30 et 18h.
Et aujourd'hui, on vous propose un entretien avec le directeur du Centre socioculturel des Racines et des Ailes, ainsi que des micro-trottoirs avec des témoignages d'habitants qui parlent de leur quartier, mais aussi Halloween, forcément, c'est la période. Mais avant ça, Nico, tu nous parles de culture.
Et oui, Boris, alors le 7 novembre prochain, une exposition est proposée ici à Chicourt dans le cadre d'un événement qui s'appelle Cité en scène. Ça s'appelle L'Invisible et c'est proposé par une association qui s'appelle justement Regard Invisible. Alors par téléphone, on a contacté John, qui est John Barley, qui est le président de cette association. On écoute ça.
Cette association a pour but justement d'aider les personnes qui sont en situation de handicap invisible, donc en leur donnant la parole et puis la possibilité de s'exprimer. Et aussi, notre deuxième volet, c'est de sensibiliser justement la société à l'existence justement des personnes qui sont en situation de handicap invisible, parce qu'il y a quand même pas mal d'incompréhension et de difficultés rencontrées au quotidien.
Alors de quoi on parle quand on parle de handicap invisible ?
De tous les handicaps liés soit à des pathologies, soit liés des problèmes physiques, soit des accidents de la vie, ce que les gens ne voient pas au quotidien.
Alors vous-même, vous êtes concerné, vous avez de la famille, des enfants qui sont concernés par le handicap ?
Moi-même, je suis concerné parce que j'ai eu des difficultés de santé en 2018 qui m'ont amené à perdre mon travail et puis à vraiment changer de vie du jour au lendemain. Je connais d'autres personnes justement via l'association qui sont dans la même situation.
Alors, quelles difficultés vous et les publics de l'association rencontrent ? Pourquoi c'est important en fait de sensibiliser les gens autour de ces questions ?
C'est surtout justement les commentaires qu'on peut entendre autour de nous. T'es pas malade, tu fais semblant, tu vas y arriver. C'est toutes des choses que les gens disent parce que ils ne le vivent pas, ils savent pas quelle situation on est. Et au quotidien, effectivement, chaque personne a ses propres difficultés. On peut avoir des journées de douleur intense et puis rester chez soi, ou on peut avoir problèmes de santé qui font que on peut pas faire telle ou telle activité, il y a des choses qui ne sont plus accessibles. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes justement de montrer au public et puis aux gens que c'est pas parce que ça ne se voit pas qu'on n'a pas les difficultés quotidiennes.
Alors votre association propose notamment une exposition qui s'appelle L'Invisible, qui sera visible ici à Chicourt à partir du vendredi 7 novembre. Une expo qui est actuellement du côté de l'espace Joséphine Baker, plutôt à Arras-Ouest, une expo qui tourne donc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition ? Qu'est-ce qu'elle montre justement ?
Donc cette exposition, c'est une dizaine de personnes qui sont en situation de handicap invisible. Donc c'est un projet que j'ai réalisé avant la création de l'association, que j'ai intégré justement à notre asso pour pouvoir bien communiquer. Donc cette exposition met en évidence 10 personnes. Ces 10 personnes ont choisi un mot qui les représente au jour d'aujourd'hui, les lié à leurs difficultés, à leurs pathologies, à ce qu'ils rencontrent au quotidien. Et donc on a fait une première photographie en noir et blanc qui représente la souffrance, la douleur, avec ce mot qui est bien visible et la personne qui est derrière, légèrement floutée pour représenter le côté invisible. Suite à cette photo, il y a eu un texte d'écrit, donc ce sont soit les personnes qui ont écrit eux-mêmes, soit on a coécrit, soit j'ai écrit pour eux, suivant les affinités de chacun. Et ensuite, la dernière photo, c'est une photo de portrait normal, naturel, pleine couleur, pleine de vie, pleine de sourire, qui qui dit que malgré tout, que même si on a nos difficultés quotidiennes, on garde espoir, on garde la possibilité de sourire.
Alors c'est vous le photographe alors ?
Oui, c'est moi le photographe qui a initié ce projet à l'origine et je l'ai intégré à notre association parce que bon, je trouve que c'est un beau, très bon moyen de communication et de sensibilisation sur le sujet.
Alors autour de cette exposition, il y aura aussi le Café des Invisibles, hein, toujours le vendredi 7 novembre à Chicourt. Alors là, c'est quoi ? C'est l'idée de discuter avec les gens autour de vos problématiques et aussi autour de l'exposition, c'est ça ?
Alors, les Cafés des Invisibles, c'est un temps de parole qu'on donne aux personnes qui sont en situation de handicap invisible, en premier lieu. Donc, ça leur permet justement d'échanger avec des personnes qui sont dans la même situation qu'eux, qui sont dans la compréhension, qui sont capables d'empathie envers les personnes au sein du même groupe. Et ensuite, justement, le deuxième objectif, c'est aussi de sensibiliser les personnes. C'est-à-dire qu'on prend toute personne dans ce genre de Café des Invisibles et puis leur dire, bah voilà, vous avez vu, nous, au jour d'aujourd'hui, on rencontre telle ou telle difficulté. C'est pour vraiment sensibiliser sur ce sujet.
Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont en cours de préparation du côté de votre association Regard Invisible ?
Donc on a d'autres expositions. Donc on a aussi Douceur de vie, qui est une autre exposition qui se base sur une dizaine de photos. C'est aussi, on donne la possibilité à des associations, à des organismes de travailler sur ces photos et en faisant des dessins, des collages, ils s'expriment librement en fonction des photos, en gardant le thème de chaque photo. Et derrière, on va organiser une exposition globale du travail de tous ces organismes, de toutes ces associations. Normalement, c'est courant mi-juin ici à Wancourt. Donc ça permet, pareil, même chose, c'est de donner la possibilité aux gens de s'exprimer et aussi de sensibiliser sur les sujets de l'handicap invisible. Ensuite, on a un autre gros projet, c'est Café des Invisibles, c'est de le rendre itinérant. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en situation d'isolement, de solitude. Certaines personnes n'ont pas les moyens de locomotion pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Par exemple, pour venir ici à Wancourt, on organise une fois par mois nos Cafés Invisibles. Ce qu'on souhaite justement, c'est créer un véhicule qui nous permettrait d'aller de village en village, de ville en ville, et de nous poser, de proposer justement à la population de venir participer à nos Cafés Invisibles et puis voir les initier à nos projets et puis vraiment de valoriser nos valeurs, donc c'est très intéressant.
Alors en 2026, ce sont les élections municipales. Les acteurs, les maires, les conseillers municipaux sont des acteurs importants des politiques sociales. Comment vous, en tant qu'association, vous jugez la politique d'inclusion de manière générale dans la Rajoie ? Comment vous jugez ces politiques ?
Bah, je trouve qu'il y a un engouement actuellement. Ça prend forme. Nous avons déjà participé justement avec la ville d'Arras à l'Incluton qui était organisé cette année courant juin. Et il y a de plus en plus, moi je rencontre des maires, je rencontre différentes personnes qui ont envie de pouvoir développer ça, de vraiment sensibiliser sur tout ce qui est handicap en général, pas uniquement les handicaps invisibles. Et il y a un travail qui se met en route, et je trouve que voilà, il y a un engouement, et ça avance, bon, petit pas, mais ça avance.
John Barley de l'association Regard Invisible, l'exposition L'Invisible sera de passage par Achicourt le vendredi 7 novembre prochain, ça se passe au 128 route de Bucquoy.
Et aujourd'hui, c'est également Halloween, donc on vous propose un micro-trottoir de circonstances. Vous allez peut-être avoir droit au trick or treats, c'est-à-dire friandise ou farce, mais ça a été réalisé par les jeunes du centre de loisirs d'Achicourt qui ont demandé un petit peu aux habitants du quartier ce qu'ils allaient mettre comme costume et en même temps comment ils allaient fêter Halloween.
Bonjour, aujourd'hui on aura le plaisir d'interviewer. Je vais poser 6 petites questions sur Halloween. Comment allez-vous vous déguiser pour Halloween ?
Je ne me déguise pas, on est toujours déguisé dans la vie.
Alors moi je sais pas trop, mes parents ils me l'ont pas encore dit, je n'étais pas au courant, mais je pense que je vais me déguiser en sorcière.
En Mercredi Addams.
En Mercredi Addams. Ouh, est-ce que tu sais faire la danse de Mercredi Addams?
Pas du tout.
Je pense que cette année, j'ai me déguisé en Harley Quinn version zombie.
Bah, j'avais plutôt prévu de rester sous ma couette avec un paquet de bonbons devant un bon film d'horreur.
Je pense que je vais faire un petit diable.
Alors, je pense que je vais me mettre un chapeau, je vais me maquiller et je vais prendre une robe de sorcière.
De quel pays vient la tradition?
Je crois que c'est les États-Unis.
La tradition vient d'Irlande. Les États-Unis viennent puis d'Irlande, la naissance. C'est les Irlandais qui ont fui la famine, qui sont arrivés aux USA et qui ont emporté leur tradition, leur culture aux USA. Et puis les USA, eh bien, nous l'avons ramené en France. Voilà.
Moi, ma mère m'a toujours dit que ça venait des États-Unis, mais elle n'aimait pas Halloween.
Des États-Unis, je crois.
Non, j'ai jamais su, mais je pense un peu les États-Unis.
Je dirais que c'est l'Irlande, mais je suis pas trop sûre.
C'est d'Irlande. Ma grand-mère, elle me disait souvent que c'était l'histoire des sorcières.
Est-ce que vous fêtez Halloween et comment?
Je ne fête pas Halloween, mais je fête la fin de l'été, l'entrée dans l'hiver. C'est ça, Halloween. C'est fini les beaux jours d'été. Il va falloir affronter les longues journées sombres sans soleil. Alors je fête, moi, je vis avec le soleil aussi.
Ça doit quand même être dur.
Non, pas du tout. C'est quand on est un être humain sur la Terre, c'est comme ça. Il faut se promener sur Terre, tout autour du soleil. Et quand on s'éloigne du soleil, et ben voilà, on a des jours beaucoup plus courts. Et puis après, on revient vers le soleil. Et après, on retrouve les jours longs de l'été. C'est comme ça, c'est l'aventure humaine.
Oui, je vais le faire déjà au centre avec les enfants que j'ai. Et après, je vais faire une soirée chez moi.
Bah, moi, je vais fêter Halloween avec le centre, ensuite avec mes grands-parents, dans la rue, avec mes copains et aussi avec ma maîtresse et mon maître.
Bah, déjà, on va le faire avec le centre d'Achicourt dans le quartier. Et après, on va le fêter avec mes amis et mes parents. Je sais plus quand.
Oui, je fête Halloween. Je vais le fêter au centre d'Achicourt à Léopold Sédar Senghor. Et le soir, en famille, en train de regarder des films. Films devant la télé.
Bah du coup, c'était pas prévu cette année, mais on sait jamais, hein, sur un malentendu au dernier moment.
Et si vous le fêtez, vous allez le fêter comment?
Oh bah sûrement avec des amis, et puis on va aller toquer aux portes des maisons, et puis... Bon, j'avoue, on va pas trop respecter la tradition. Je crois qu'il faut lancer du papier toilette sur les maisons qui veulent pas nous ouvrir.
Ah oui, nous, on va passer vendredi avec les enfants sur le quartier ici, par ici, du côté du Quénois, tout ça, pour que les petits puissent profiter et voir ce que c'est dans les maisons, comment c'est décoré et tout, oui.
En parlant de ça, quel film d'horreur vous nous conseillez?
Ah, j'adore Shining.
Je ne regarde jamais les films d'horreur. Il y a tellement d'horreur en vrai autour de soi que je me dispense des films d'horreur.
Moi, j'ai bien aimé La Main. C'est un film australien.
Oh oui, Mercredi Addams.
Ça fait pas trop peur, ça.
Si.
J'ai jamais vraiment regardé de films d'horreur. Mais sinon, je sais pas trop.
Ou oh, alors là... Je pense que j'aimerais bien revoir Chucky, moi.
Et est-ce que tu sais s'il y a des événements pour Halloween dans le quartier?
Bah, déjà, moi je sais avec le centre aéré d'Achicourt, mm-hmm. Et après dans ma maison.
Dans ta maison? Tu fais une grosse fête avec tout le quartier dans ta maison?
Oui.
Oh, et tes parents, ils sont au courant?
Ouais.
J'espère qu'il y aura des bonbons pour tout le monde alors.
Alors moi je sais que au centre socio-culturel, à côté, dans la petite salle, il y aura un petit événement où il y aura un goûter et tout. Et bah, je pense que ça serait sympa pour tout le monde.
Ah ça non, je ne sais pas. Mais quelquefois, on voit des petits enfants, des petits bonhommes se promener déguisés. Mais non, je ne sais pas.
D'abord le centre, mais pas tout le monde peut y aller. Après, vers le quartier à côté du collège à Dandelal, il y a une petite fête avec un goûter, avec des jeux. Je pense que c'est vers 16h, 17h, truc comme ça.
Pas vraiment. J'ai pas vraiment vu d'affiche, donc je sais pas s'il y a des choses dans le quartier.
D'accord.
Alors oui, je crois qu'il y a un événement, je pense, ce samedi, du côté de ton quartier.
Vendredi.
Et avec, là-bas, ils vont organiser un goûter, tout ça, du maquillage pour les enfants et tout, oui. Ça sera super pour eux, je pense.
Il me semble qu'il y a une parade avec tous les enfants. Si vous mettez vos plus beaux costumes, vous pouvez aller déambuler dans la rue et peut-être demander des bonbons aux maisons. Je crois que le rendez-vous, c'est devant la salle Mitterrand à 16h. Donc c'est vendredi à 16h devant la salle Mitterrand.
Qu'est-ce qui vous fait peur, Halloween ?
Tout ce qui est zombies et les momies.
Tout. Tout. Le genre humain me fait peur. Quelquefois, il est bien, mais quelquefois, il est horrible.
Oui, ma copine, Roxane.
Les araignées, les migales. Rien qu'en y penser, je vais vomir.
Les araignées, pas que dans Halloween, et le sang. Le sang, quand on se déguise, le sang sur le visage et tout. Oh, ça, c'est horrible à voir.
Les araignées, oh là là là, elles me font peur toute l'année, même à le pack Halloween en fait.
Oh, c'est tous les monstres qui ont la fenêtre et qui font ouh, c'est ça qui me fait peur.
Merci beaucoup de cette interview, passez une très bonne journée.
Au revoir.
Voilà, je vous rappelle quand même que cette fête d'Halloween date bon, évidemment des années 1900, qui a été popularisée un petit peu dans toute l'Europe, mais qui est très répandue au Pays de Galles, en Irlande, et non pas aux États-Unis, et aussi en Angleterre, et qui fête la fête des morts, justement, du 31 octobre au 1er novembre. Et on retrouve les jeunes de l'ACM avec quelques petites chroniques.
Aujourd'hui, je vais vous parler de 99 nuits. Le but du jeu vidéo est de trouver les 4 enfants disparus dans la forêt. Il y a la présence d'un cerf à deux pattes. La forêt a été interdite au public. Votre but est de survivre 99 nuits dans la forêt avec les 4 enfants. Et ce jeu est sur Roblox. Le cerf a très faim. Le cerf veut te manger. Si il te mange, tu as perdu.
C'est bizarre quand même, parce que les cerfs, d'habitude, c'est pas carnivore.
Bah non, mais c'est un jeu vidéo.
Il y a une malédiction, quelque chose?
Non. C'est bon. Juste parce que c'est un jeu.
Et c'est un jeu pour les grands ou ça fait pas si peur que ça?
Ça fait pas si peur que ça, mais c'est un jeu quand même pour les grands aussi.
Genre, il y a un...
Tout le monde peut y jouer un peu.
Il y a une limite ou pas, normalement?
Bah, si t'as en dessous de 5 ans, bah tu peux pas jouer.
Ah, donc c'est que ça doit pas faire si peur que ça, alors. Ouais. Et c'est long ou pas à faire?
Très très long.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer ce genre de jeu? Bah, parce que moi j'aime bien le thème de retrouver les enfants.
C'est le fait que ce soit un jeu d'horreur?
Non.
Non? Ou un jeu d'enquête?
Oui.
Et du coup, tu nous le recommandes ou pas, ce jeu?
Bah, ceux qui ont envie de jouer, bah, s'ils ont envie, bah, ils jouent.
Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 mangas. Pour commencer, je vais vous parler de Détective Conan. Cet adolescent qu'on appelle Shinichi, il a 17 ans, il veut devenir détective des années 90, mais un jour, en suivant une piste, deux hommes en noir lui donnent un poison et il devient enfant de 6 ans. Il doit retrouver les hommes en noir, mais des crimes s'enchaînent sur son chemin. En gardant son identité secrète, il doit les résoudre. En deuxième, je vais vous parler de Fairy Tales. Natsu, un ado élevé par un dragon, Gin, s'intègre à une guide, Fairy Tales. Il doit se battre contre d'autres guides avec sa magie, le chasseur de dragons de feu. Et j'ai oublié de vous dire qu'une guide, c'est dedans, c'est que des magiciens.
Il y a d'autres mangas que t'aimes bien?
Oui.
Quoi par exemple?
Capitaine Tsubasa, Assassinon Classon, après il y a plein d'autres trucs, mais je peux pas tout dire.
Ouais.
Il y en a vraiment beaucoup. Après il y a Splatoon, des mangas avec des jeux vidéo dedans, j'aime bien ça. Donc, voilà.
La combien de séries dedans?
Bah moi je lis pas, je lis les mangas, je regarde pas les séries.
Okay.
Et en manga, dans Conan, il y a le 107 qui est sorti au Japon. Et le 105 qui est sorti en France.
Et bon.
Tu vas avoir le temps de tout lire?
J'ai déjà tout lu.
Quoi?
Wow. Tu dévores les livres en fait.
J'aime bien.
Ok. Et un manga, c'est pas comme un livre habituel, ça se lit à l'envers. C'est pas trop perturbant?
Non.
Quand tu passes d'un livre à l'autre?
Puisque j'en lis beaucoup, des mangas, bah, je suis plus habituée à lire à l'envers.
Et c'est quoi qui te plaît dans les mangas? C'est plutôt les dessins, plutôt...
Les dessins, après tout ce qui se passe dedans.
Il y a l'histoire aussi. peut-être les légendes aussi sur le Japon en même temps qu'ils sont dedans.
Pas vraiment. En fait, c'est non. Pas des gens au Japon, c'est plus des gens au quotidien. Bon, c'est vrai qu'ils visent au Japon, mais on voit pas genre qu'ils sont japonais. C'est des humains.
Alors, on a écouté les jeunes d'Hachicourt. On va écouter maintenant les personnes un peu plus âgées du quartier des Quatras. Boris a réalisé un petit micro-trottoir au pied d'un des bâtiments. On écoute ça.
Expliquez-moi un petit peu comment vous vivez la vie dans ce quartier. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas?
Ben, oui, une très belle vie. On est heureux, oui. C'est tout à fait ça. Depuis qu'il y a les caméras, c'est beaucoup plus calme qu'avant.
Pourquoi les caméras exactement?
Ah, bah parce que il y avait des soucis avant. Hein.
C'est-à-dire?
Ah, il y avait beaucoup de voitures de brûlées. Hein.
Et en ce qui concerne au niveau culturel, etc., est-ce qu'il se passe beaucoup de choses?
Ah oui, bien sûr, oui, oui. Moi, je vais souvent là-bas, à la petite école maternelle. Là. Et bien sûr, M. Romain, j'ai affaire avec M. Romain. Vous connaissez M. Romain?
Non.
Ah, bah pourtant, il est connu.
Alors, c'est qui exactement?
M. Romain, il travaille pour la ville d'Hachicourt, quoi.
D'accord.
Oui. Il me connaît très bien.
Ok, et du coup, il y a la fête du Moulin aussi, exactement.
Oui, bien sûr, oui. La fête du Moulin, c'est agréable, ouais. Et puis des jeux de quartier pour les enfants, tout ça, que je connais. Au stade Canfin, là-bas. Je suis dû y aller aussi. Il y a des jeux pour les enfants, tout ça, c'est bien. Ouais.
D'accord.
C'est chouette.
Et donc là, vous venez rendre visite à votre frère qui habite dans cet immeuble.
Oui, oui. Cinquième étage, ouais.
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré éventuellement? Parce que là, je voyais que vous étiez en train de trier vos déchets.
Ah oui, bien sûr, tous les jours, je descends, je les sépare de mes déchets, quoi, bien sûr. Du plastique, les bouteilles de verre, tout ça, c'est recyclé. Et il y a beaucoup de gens, des personnes, qui jettent les sacs poubelles comme ça, à côté des poubelles aussi. C'est pas agréable, ça. C'est pas agréable. Il faudrait qu'ils fassent chacun leur tri, comme moi, tous les jours. Et ça ne le fait pas.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe dans votre quartier? Est-ce que vous êtes content de votre quartier?
Bah, vous savez, comme je ne sors pas beaucoup, alors je ne fais pas pour me dire ce qui se passe. Hein.
Mais est-ce que vous avez des a priori sur ce qui se passe éventuellement, sur ce qui a amélioré, etc.?
Ouais, mais à part que si entre deux, ils ont dû faire des chauffassages, enfin, en faire un. Parce que tous les gens, ils passent dans les fleurs.
Ah, d'accord, ok. Et en ce qui concerne tout ce qui est tri des déchets, etc., est-ce que vous constatez qu'il y a des incivilités? Ou est-ce que vous constatez quand même que les gens sont respectueux un petit peu de l'environnement?
Bon, ouais, quand même.
Est-ce qu'il y a longtemps que vous habitez là?
Oh, ouais, ça fait faire tant à l'heure.
20 ans?
Ouais, bientôt.
Et est-ce que vous avez constaté que ben, y a des choses qui ont été faites justement pour que votre vie, tout simplement, ait améliorée ou pas? Alors, je constate que vous sortez beaucoup.
Moi, je ne suis pas un gros parleur, alors...
Et vous êtes retraité ou... Ben oui, j'imagine, oui. Mais vous faisiez quoi avant comme métier?
Je travaillais dans marchand bâtiment matériaux.
Ok. Et alors, donc du coup, est-ce que bon, vous en tirez quelque chose de d'avantage ou d'inconvénient?
Bon, il y avait les deux.
Ouais.
Marchand de matériaux, chez tout ou rien, quoi.
Et en 20 ans, donc, bah, y a la jeunesse aussi qui est arrivée aussi dans les quartiers, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez constaté justement avec la jeunesse? Est-ce que vous avez eu une interaction avec eux?
Non.
Non. Apparemment, ça fait 43 ans que vous habitez le quartier. Vous pouvez nous expliquer?
Depuis 81.
Et vous êtes arrivé comment? Vous êtes de où exactement?
Moi, je suis d'Hachicourt.
On s'intéresse un petit peu à la vie de quartier et on se demandait justement bah, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va bien?
Bah, vous savez, à mon âge, j'ai presque 80 ans. Alors, mais c'est plus pareil que quand je suis arrivé, quoi.
Qu'est-ce qui n'est plus pareil?
Bah, les gens, déjà.
Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe?
Regardez, toutes les poubelles, les gens n'ont même pas le courage de soulever le couvercle pour mettre dans la poubelle. Chose qu'on ne voyait pas au début quand je suis arrivé, quoi.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont à améliorer, justement, dans ce quartier?
La mentalité, déjà.
Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils sont irrespectueux ou...
Bah, c'est plus pareil. Les gens, c'était plus simple pour être des clubs, maintenant, c'est plus pareil.
Il y a moins de convivialité, c'est ça?
Ah, convivialité, je dis pas, mais avec les personnes anciennes, oui, mais plus avec les jeunes.
Il n'y a pas d'interconnexion avec les jeunes, c'est ça?
Ouais, non, ouais.
À l'heure actuelle, je cherche à partir.
Pour quelles raisons ?
Pour l'environnement, pour la mentalité des gens, pour le non-respect de Pas-de-Calais Habitat, de Logista, on n'a que des problèmes. Que des problèmes. Et aucun respect de la personne.
Et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré justement dans ce quartier ?
Du moins, pour nous les bâtiments, entretenir les bâtiments. Parce qu'il ne suffit pas de faire des travaux de rénovation, ça s'entretient. Et être à l'écoute des gens. Donner des informations, nous tenir informés. C'est ce qui manque, le contact humain.
Et ça fait combien de temps que vous habitez ce quartier ?
Ça va faire 32 ans.
Et donc, du coup, en 32 ans, vous avez constaté qu'il y avait quand même une dégradation ?
Il y a eu une grosse dégradation il y a une quinzaine d'années qui s'est nettement améliorée. Je ne vais pas mentir, le quartier s'est nettement amélioré. Hein. Que ce soit avec les jeunes, avec tout ce qui a été mis en place. Moi, j'ai fait énormément de choses avec la mairie pour aider, justement. Mais il y a encore de gros progrès de communication. C'est ce qui nous manque.
Alors, vous habitez donc le quartier des Quatre As depuis combien de temps ?
J'ai 37 ans.
Ah bah, donc depuis très longtemps alors. Alors, bah, qu'est-ce que vous avez constaté justement dans ce quartier ? Comment vous le vivez, vous, ce quartier des Quatre As ?
Bah, le cachet est mieux maintenant qu'avant.
Et alors, donc du coup, est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer ou est-ce qu'il y a des choses qui sont parfaites pour vous ?
Bah là, avec les projets qu'ils ont fait, oui.
Alors, c'est-à-dire, quels projets exactement ?
Bah, qu'ils ont fait les jeux, les chemins, qu'ils ont tout refait sur le parking.
Ça, pour vous, ça vous convient ?
Oui, ça me convient.
En ce qui concerne la convivialité, la solidarité avec les habitants, est-ce que bon, ça ne pose pas de problème pour vous ?
Non, ça ne me pose pas de problème. Vu que ça fait des années que j'habite ici, j'ai pas de problème, ça va.
Voilà, pour terminer cette émission, on vous propose également un entretien avec Lassen Haït Eladj, qui est directeur du Centre socioculturel des Racines et des Ailes à Achicourt.
Je suis arrivé au Centre socioculturel d'Achicourt cette année, ça fera 10 ans, au mois de décembre. Donc le Centre social est une association qui est née en 2007. Donc ça a été une initiative des habitants qui étaient sur la commune d'Achicourt.
C'est une association indépendante. Hein.
Voilà, c'est une association indépendante qui a des financements des fonds publics. Le premier contributeur, le premier financeur, ça reste la collectivité territoriale. Alors pourquoi associatif ? Parce que c'est vrai que comme au niveau national, il y a un peu une facilité de gestion. C'est-à-dire que c'est les habitants qui sont au cœur du centre social. Le conseil d'administration est majoritairement composé d'habitants. Puis il y a quelques élus qui participent au conseil d'administration. Alors je ne dis pas que les centres sociaux municipaux, les d'autres acteurs, c'est un peu plus différent. Mais la tendance nationale, quand même plus de 80% des centres associatifs sont associatifs. Dans la moyenne du Nord-Pas-de-Calais, parce que je suis aussi administrateur de la Fédération des centres sociaux, 70-80% sont associatifs. Et là, il y a une particularité dans le Pas-de-Calais, où maintenant, c'est 50% des centres sociaux qui sont en gestion municipale et 50% des centres sociaux qui sont en gestion associative.
Alors, en résumé, hein, brièvement, forcément, parce que j'imagine que vous faites plein de choses, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui se passe donc, dans ce centre socio-culturel ? Quelles sont les activités proposées ?
Un centre social a son cadre de référence, ça reste celui de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui a une démarche bien particulière. On met en place ce qu'on appelle un projet social à l'échelle des 4 années, 4 ans. Tous les centres sociaux, le maximum qu'on peut avoir, c'est 4 ans. Et il est décliné pour répondre à des besoins de la population. Donc nous, il est décliné déjà parce que vous avez vu, tous les centres sociaux sont obligés d'avoir un accueil inconditionnel, c'est-à-dire même au moment du Covid. Nous, on a continué à proposer des services à domicile, livraison de repas, etc., parce qu'on est reconnu comme des structures accueillant de manière inconditionnelle et sans restriction de participation. Ensuite, on a un volet, tout de suite, depuis la création du centre social, on a un volet autour des familles, comme beaucoup de centres sociaux. Donc, on a un projet famille avec le pôle famille, parentalité. Donc là, il y a une coordinatrice, une référente famille plus exactement, qui chapeaute ça, qui propose des activités, des sorties. Mais l'idée, c'est au-delà des activités, c'est surtout de faire avec les parents, les familles, et de proposer un plan d'action sur le moyen long terme. La même chose au niveau des jeunes, c'est là où vous avez été, là où vous êtes hébergé actuellement.
À l'Agora. Hein.
À l'Agora pour tous. Donc là, c'est une initiative qui est née aussi des habitants du quartier, place de Rouen, qui ont exprimé, et surtout des jeunes qui ont exprimé le fait qu'il n'y avait rien à l'époque. Donc l'Agora, elle est née à 2010-2011. Donc aujourd'hui, ça vit. Vous voyez, on a à peu près 170-180 jeunes par an. Les familles, j'en ai pas parlé, on a 400 familles adhérentes, donc ça représente 1100 usagers adhérents. Mmh. Et on a à peu près 1000 habitants qui viennent de manière sans être adhérents sur les manifestations culturelles, sur les actions Aller Vert. Après, on propose aussi d'autres services. Hein. En 2017, on crée le pôle senior adulte et thématique de la santé, parce que ça a été un besoin aussi de la population. La population à Chico a la particularité d'avoir un peu plus d'habitants. On a 8000 habitants. Donc c'est la deuxième ville plus grande après la ville d'Arras. Et on va dire 21% de la population, c'est une population, on va dire, de seniors. Donc chez nous, ça représente 180 à 190 seniors qui sont inscrits dans nos différentes actions. Et on a aussi, depuis le départ de la création du centre social, un pôle enfance. Donc là, on gère aussi en bonne intelligence avec la mairie tout ce qui est centre de loisirs, les petites vacances, les grandes vacances, les colonies en été. Donc ça, on est le seul acteur qui intervient dans ce domaine-là au sein de la ville d'Achico. Donc on intervient, pour résumer, autour de toutes les tranches d'âge. Donc, des jeunes enfants.
Bah oui, c'est ce que j'allais demander justement. S'il y a eu un contact intergénérationnel entre les plus âgés et les plus jeunes.
Alors ça, c'est vraiment une préoccupation, hein, le lien intergénérationnel, parce que la particularité aussi d'avoir des annexes, parfois on voit bien, par exemple, les adultes seniors viennent à l'une des annexes qu'on appelle l'animathèque, ils font des activités. Les jeunes, c'est plus dans les actions en horaire décalé, hein, dans les salles des sports ou à l'agora des jeunes. Il n'y a pas encore d'action de manière spontanée entre les publics, donc on essaye de l'initier tous les ans. On fait des actions en commun, de manière intergénérationnelle, de manière pratico-pratique, aussi avec les acteurs à l'échelle de la ville. On sait là où il y a les personnes âgées habitent, dans les béguinages, au niveau de l'EHPAD, enfin de maison de retraite, on va dire ça comme ça pour mieux se faire comprendre. Donc on essaye aussi de proposer des actions intergénérationnelles pour qu'il y ait moins de défiance. C'est-à-dire les anciens, les jeunes, ils ne nous disent pas bonjour. Et puis les jeunes, j'exagère, mais c'est ce qui est souvent qui remonte. Et puis les jeunes qui nous disent, les anciens, ils nous regardent bizarrement. Mais c'est une tendance qui n'est pas méchante ici, soit à Chico, mais on voit bien qu'il faut, c'est vraiment une préoccupation de travailler le lien intergénérationnel.
Ce centre socio-culturel porte le nom des racines et des ailes. Vous nous expliquez un petit peu s'il y a une métaphore derrière ou pas?
Alors, c'est vrai que lors de la création du centre social, c'était centre socioculturel d'Achicourt. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de slogan, etc. Et à chaque fois qu'on a travaillé sur le... Tout à l'heure, j'ai parlé du projet social. Bon, on fait ce qu'on appelle des séminaires, on fait des questionnaires, on fait du porte-à-porte. Et souvent, ce qui revient dans les séminaires qu'on peut faire avec les habitants sur les diagnostics sociaux partagés, c'est que des habitants nous disent « Non, mais nous, on ne vient pas au centre social, on n'a pas de problème d'ordre... d'insertion sociale et professionnelle. » Et donc, à chaque fois, en termes de le mot centre social était pris de manière péjorative. Donc, avec le conseil d'administration, ils ont voulu, pour casser un peu ces barrières, donc l'agrément centre socio-culturel, ça reste tel quel, ça, en fait, c'est la maison des habitants, c'est centre, il faut le prendre au sens sociétal. C'est une maison des habitants, pour l'appeler comme ça. Et donc, ils ont repris un peu l'histoire d'Achicourt avec les maraîchers, les anciens, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en valeur au niveau du centre social. Donc, ils ont repris l'image des racines avec ces fameuses plantations de carottes que moi, j'ai appris à connaître l'histoire d'Achicourt. Et puis, l'idée des ailes, c'est-à-dire de donner... Voilà, il y avait là aussi la liberté, accompagner l'initiative et l'émancipation des jeunes. Donc, du coup, c'est devenu notre slogan, même si on sait que c'est une émission... c'est un slogan déjà bien connu, et c'est aussi une émission de France Télévisions qui est bien connue. Donc aujourd'hui, les gens sont attachés au nom Centre socio-culturel des racines et des ailes.
Alors, on évoquait en off des films documentaires qui ont été réalisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les sujets et en même temps, où est-ce qu'on peut les trouver? Parce que c'est intéressant que les jeunes puissent se mettre en valeur justement à travers ces documentaires.
Oui, alors dans le panel d'actions qu'on peut mettre en œuvre, en place, on utilise ce qu'on appelle nous les outils pédagogiques. Donc, ça peut être sur le théâtre, ça peut être sur le là avec vous au niveau de la radio. Et nous, on a beaucoup utilisé la vidéo. Donc, et toutes les vidéos qui ont pu être réalisées avec les différents groupes d'habitants et notamment de jeunes, donc depuis plus de 10 ans, vous pouvez les retrouver sur la rubrique vidéothèque sur notre site internet. Vous tapez sur un moteur de recherche centre socioculturel d'Achicourt, centre social d'Achicourt. Vous allez dans la rubrique vidéothèque, on a fait pas mal de films, enfin les habitants ont fait pas mal de films, par exemple sur les difficultés de lien intergénérationnel, sur la citoyenneté. Ils ont fait un parcours de la citoyenneté pendant 3 ans, ils ont été au Sénat, à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des échanges avec les élus, les parlementaires. Donc il y a aussi tout un travail, aussi, il y a quelques années, hein, des jeunes qui se sont intéressés au métier du journalisme. Ils sont partis à Paris, ils sont partis participer à certaines émissions. Ils ont interviewé aussi des anciens footballeurs professionnels. Enfin, ils ont vraiment pris l'outil de la vidéo et aussi ce que vous faites, vous, au travers de votre micro. C'est aussi un mode d'expression. Souvent, on se dit, moi, mais les jeunes ou les moins jeunes, comment ils font pour s'exprimer? Donc, en dehors de s'exprimer sur les phénomènes de violence ou sur des tags, sur les tags sauvages, etc., le fait de s'exprimer à travers un micro, une vidéo ou quelque chose d'artistique, ou le fait sur une pièce de théâtre, ça permet d'extérioriser ce qu'ils ont au fond d'eux. Donc, c'est aussi on l'utilise beaucoup, ça marche très, très bien.
Vous savez 10 ans que vous êtes là, donc quel est votre regard sur la ville d'Achicourt et en particulier plutôt sur le quartier des Quatre As?
Sur le quartier déjà la ville d'Achicourt, c'est une ville où les gens sont très attachés. Il n'y a pas beaucoup de turnover au niveau des lieux d'habitation. Donc, vous avez parlé des Quatre As. Donc on a sur les Quatre As, c'est un grand quartier aussi. Bon, la ville de Borin, ils ont aussi un quartier qui s'appelle les Quatre As. Donc là, au niveau des immeubles, si pour reprendre uniquement les immeubles, on a à peu près 1 100 habitants qui habitent ces différents immeubles. Et les personnes sont très attachées à leur quartier, à l'image de leur quartier. Et puis, ils y restent et ils se sentent bien. Après, sur la ville d'Achicourt en tant que telle, c'est vrai que c'est une ville qui est en pleine mutation, on va dire ça comme ça. On voit bien avec la nouvelle médiathèque qui va arriver, on voit avec les travaux pas très loin lorsque vous allez sur Arras, vous allez là, il y a une piscine qui est en train d'être refaite, il y a la place de Rouen qui a été refaite aussi, le collège aussi très prochainement devrait prendre le pas aussi sur le... Donc il y a la maison des sociétés aussi qui a été totalement refaite aussi en centre-ville. Donc c'est la ville aussi a un projet sur le centre social dans quelques années, donc c'est vraiment de se mettre aussi au niveau en termes d'infrastructure et d'outils et de qualité de service pour la population.
Et enfin, dernière question, on va pas se voiler la face, hein, ces dernières semaines les associations ont appelé à l'aide vu la baisse de subventions qui sont prévues par le gouvernement, la mise en concurrence, etc. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous et les centres sociaux en général?
Alors c'est vrai qu'il y a eu un appel à la mobilisation par le mouvement associatif. Hein, donc nous, au niveau de avec la Fédération des centres sociaux, on y a participé. Mais moi-même, j'y ai participé à la manifestation du 11 octobre à Lille. Donc ça a été une mobilisation à l'échelle nationale. Donc moi, j'y ai participé. Il y avait pas mal... elle était bien une bonne représentation des personnes qui étaient mécontentes, notamment dans toutes les filières. C'est les centres sociaux, c'est les filières culturelles, les filières sportives... aussi les filières aussi sur les associations caritatives. Donc c'est tout le monde qui est touché, les centres sociaux sont aussi touchés. Il y a quelques partenaires où il y a des petites évolutions qui ont été faites et augmentations, on va dire, qui ont suivi le cours de l'inflation, comme des partenaires fiables, comme la CAP, c'est un partenaire fiable. Après, les collectivités aussi, ils ont des difficultés de financement, ils n'ont pas les budgets à l'extension qui sont aussi un peu dans le rouge. Et certains, beaucoup de structures aussi, on se retrouve en difficulté parce que forcément, vous avez l'inflation, vous avez les salaires qui augmentent parce que le SMIC augmente donc au niveau de la filière. Donc c'est vrai qu'on est très inquiet. Donc nous-mêmes, on a aussi un poste qui n'a pas été renouvelé au niveau de ce qu'on peut appeler un contrat d'adulte relais qui faisait office de médiateur social, enfin qui est arrivé à la fin du dispositif et puis la démarche n'a pas été continuée dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des difficultés de financement. Après, c'est vrai qu'on est très méfiant sur les coups de rabot qui peuvent être mis par-ci ou là, mais ça peut être très néfaste pour la population qui a vraiment besoin de ces associations.
Un dernier mot, peut-être, on peut rester quand même optimiste ?
Oui, bah moi ça fait 25 ans que je suis dans les centres sociaux. Les difficultés, on en a tout le temps eu, que ce soit d'ordre social, de l'ambiance avec la population. Quand je dis ambiance, c'est parfois, j'ai connu les émeutes de 2005, parce que là, en fait, les 20 ans, un peu... Donc, on a toujours été, j'allais dire, les acteurs sociaux, notamment les centres sociaux de manière générale, on a toujours été présents lorsqu'il le fallait, au moment du Covid, au moment où il y avait besoin de mettre nos professionnels sur le terrain. Mais on est optimiste, mais on reste vigilant et à l'écoute sur tout ce qui pourrait améliorer la qualité de service de la population, parce qu'on est vraiment encore les derniers maillons de la chaîne en proximité avec la population. Après, tout est fait de manière distante et là, ça peut être compliqué.
Entretien réalisé en compagnie de Lassen Haït Elledj, directeur du Centre socio-culturel des Racines et des Ailes d'Achicourt.
C'était l'émission radio de quartier sur PFM. On se retrouve pour la dernière émission lundi 7h30, 12h30 et 18h, toujours sur le 99.9. Retrouvez toutes les émissions en ligne sur radiopfm.com. Salut Boris.
Salut Nico. Yo les jeunes. Yo les plus vieux.